CO2 mon amour avec Melvita, cosmétique écologique et biologique en pharmacie et boutique bio. Rendez-vous sur melvita.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui à la technique Claudine Lapersonne et Basile Bocquer et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinazas et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Allez, tenez-vous qui êtes impatients de connaître la suite des aventures de notre petite planète. Eh bien, je vous emmène au cinéma. Et oui, ça sort en salle mercredi. Ça s'appelle Solution locale pour un désordre global. Et c'est donc Colline Serrault, notre invitée aujourd'hui. Résumé de l'épisode précédent, souvenez-vous, c'était La Belle Verte. Oui, notre héroïne s'appelle Mila. C'est une extraterrestre comme vous et moi, envoyée sur Terre pour faire un reportage sur les habitants du coin. Allons-y.
Alors, salut mon fils que j'aime, je suis toujours sur la Terre. Ben, figure-toi que les gens ici mangent encore des vaches, mais ils se servent pas de leur fumier, c'est curieux. Hein. Ils cachent la bonne terre et les ruisseaux sous le béton et ils passent des heures dans des grosses voitures. Ils partent tous ensemble, en même temps, à la campagne. Le vendredi soir, j'ai des crises d'asthme. Et puis pour manger, ben, c'est toujours pareil, hein. T'as pas de monnaie, t'as rien.
Alors 14 ans après les aventures de Mila, Colline Serrault nous joue La Planète Bleue, le retour et nous présente la facture d'un demi-siècle de révolution verte. Un bilan qui n'est pas tellement réjouissant pour la santé de nos sols qui sont blindés de nitrates et de pesticides et qui engraissent avant tout les laboratoires de l'agrochimie et nourrissent à peine les cultivateurs. Mais elle nous donne aussi des solutions, donc film antidépression, on en parlera dans quelques minutes. Actualité tenez de la semaine aussi sur notre petite planète où on continue allègrement de marcher sur la tête. Tout d'abord, remerciements à Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération et très coopérant avec les compagnies aériennes privées, qui n'a pas hésité à faire de la pédagogie, si on ne l'avait pas compris, auprès de ses collègues ministres, en cramant en quelques heures à bord de son Falcon le quota annuel d'émissions de CO2 d'une famille moyenne. Bon, à 116 000 euros la leçon et 15 tonnes de CO2 plus tard, c'est quand même une bonne opération, puisque à l'avenir, pour louer un jet privé pour un oui ou pour un non, il faudra désormais justifier auprès du Premier ministre de ses qualités de gagnant du loto ou de bénéficiaire du bouclier fiscal. Le sens de l'humour a aussi des limites. Quand on a expliqué à Nicolas Hulot que la taxe carbone, défendue avant par notre président écolo pendant 2 mois, et le ministre de l'Environnement, c'était un poisson d'avril, et ben il a claqué la porte du Grenelle de l'Environnement, mais pas encore celle de TF1, faut pas déconner quand même. Le Grenelle de l'Environnement, qui prenait déjà l'eau, écope aussi d'une énième torpille avec l'avis négatif rendu par la commission parlementaire dirigée par Patrick Ollier sur le développement de l'éolien en France. Bon, on sait que monsieur Ollier est un opposant notoire à l'éolien et défendeur du chauffage électrique. Tout en admettant bien évidemment la destruction de certains paysages par les éoliennes, les énergies renouvelables ne sont pas très solubles aujourd'hui dans le lobby nucléaire, on s'en doutait bien un petit peu. Et si ce genre donc de super production, si on se les gardait pour faire du cinéma, hein ?
Nous, on est dans une commune de 1500 hectares, à Marais-sur-Pie. Il n'y a plus que 2 agriculteurs sur 1500 hectares. On leur a tellement expliqué que leur valeur, c'était parce que leurs vaches pissent 10 000 litres par an de lait, et ils font 100 quintaux, toujours cette espèce de... Celui qui fait pipi le plus loin, quoi. Vous voyez le côté de l'école communale, quoi. Ah, je suis plus costaud, je pisse plus loin que toi. Et leur faire comprendre que c'est pas ça le métier d'agriculteur, c'est qu'il doit nourrir, et donc il doit nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. C'est avec ça qu'on va nourrir la population.
Un extrait du nouveau film de Colline Serrault, donc Solution locale pour un désordre global. Colline avec un L, mais quand même avec 2 L, ça fait partie du paysage aussi. Colline Serrault, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Colline Serrault, aujourd'hui vous êtes dit, les films d'alerte et catastrophiques, c'est fait, ça a eu leur utilité, ça a été indispensable, mais maintenant on va essayer de passer un petit peu à autre chose. Alors on a des constats quand même qui ne sont pas très joyeux sur l'agriculture française ou bien mondiale, mais quand même, maintenant allons-y, puisqu'on a le constat sur la table, et c'est ce que vous avez voulu faire, c'est pour ça que je parlais de films antidépression.
Oui, antidépression, anti-culpabilité, film joyeux, enfin plein d'humour aussi. Oui. Et qui, je voudrais qu'en sortant, les gens aient de l'énergie, la pêche, et puis surtout, surtout la conviction profonde qu'ils peuvent faire quelque chose. Quoi.
Oui, c'est ça.
Là, si, le malade est assez grave, là. La maladie est grave, mais on va la soigner. Quoi. Il va, on a, de toute façon, a-t-on le choix ?
Et c'est une histoire, en fait, c'est vraiment le début du film, qui commence après-guerre. C'est tout à fait intéressant parce que donc, ça débute après la Seconde Guerre mondiale aussi. Et un rappel qui est important, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, on en avait déjà parlé il y a quelques années avec Claude Bourguignon dans cette émission, mais on s'est retrouvé avec des stocks absolument incroyables alors de produits chimiques. Il a bien fallu en faire quelque chose parce que ce qui servait donc à des armes de guerre, on les avait sur les reins. Et donc là, il y a une bascule qui s'est opérée.
Oui, c'est ça. Il restait après la guerre des stocks énormes de nitrates, hein, qui est d'explosifs, de gaz moutarde. Les nitrates ont donné les engrais, les gaz moutarde ont donné les pesticides et des tanks, beaucoup, beaucoup de tanks. Ils ne savaient plus quoi faire et ça a donné les tracteurs, les tanks, de tous ces trucs qu'ils avaient sur le bras.
C'est alors, pas la même utilité quand même. Hein, donc,
Non, pas tout à fait. Oui. Donc, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et idée brillante. L'agriculture n'achète rien à l'industrie. Donc on va fourguer à l'agriculture qui était gratuite, qui se faisait avec des choses parfaitement naturelles.
C'était un cycle fermé.
Oui, la biomasse et le fumier, quoi, en gros. C'était les engrais et ça marchait très bien comme ça. Ben, on va leur fourguer des trucs qui vont booster momentanément leur production, ce qui est vrai. Ça a boosté, on peut y passer en général de 50 quintaux à 60 ou 80. Bon. Ils vont devoir acheter ça. On va aussi d'ailleurs leur confisquer leurs semences. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire on va leur donner des semences qu'ils sont maintenant obligés de racheter au lieu de les sélectionner et de les avoir gratuitement. Et avec ce tour de passe-passe, eh ben on va résorber nos stocks. Le problème, c'est qu'évidemment, ça, on aboutit à l'agriculture la plus chère du monde, là, quand on fait ça. Parce que tout ça, il faut l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, un autre tour de passe-passe, on va prendre leur argent à eux, hein, l'argent des subventions, l'argent des impôts, l'argent qui est au peuple. Et puis on va subventionner cette agriculture. Et comme ça, tout cet argent, non seulement il va faire disparaître les paysans, parce que c'est embêtant qu'ils soient trop nombreux, on va reprendre toutes leurs terres, parce que tout ça va être trop cher. Et les gros qui resteront, eh ben, par eux, passeront l'argent qui ira directement à la pétrochimie. Donc en fait, c'est une entreprise de spoliation, de vol, de détournement de fonds publics, de notre argent, vers la pétrochimie, à travers une agriculture qui a en plus de tout ça complètement, mais bien sûr, tuer les sols, mais aussi tuer les agriculteurs dans leur chair, dans leur santé, et puis dans les exploitations qui disparaissent une tous les quarts d'heure. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas terrible. Quoi.
C'est ce système absolument absurde, hein, qui est vraiment le premier tiers du film. Et puis après, il y a évidemment des solutions qui se trouvent en Inde, qui se trouvent au Brésil, en France, en Suisse, etc. Un homme qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt, c'est Jean-Marie Pelt. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Jean-Marie.
Bonjour Jean-Marie Pelt. On ne se connaît pas, mais moi je connais bien vos livres.
Hein. C'est gentil, oui.
Vous avez une fan, Jean-Marie.
On a parlé de ça avec Denis dans notre dernier livre, Les dons précieux de la nature, qui vient de sortir. Il y a deux choses dans ce que vous dites qui me vont vraiment droit au cœur. La première, c'est que, nous dit-on, votre film ne fait pas du catastrophisme. Alors ça, je crois que c'est très important. Je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens pour des péchés qu'ils n'ont pas commis. En fait, vous mettez le doigt à l'endroit où ça fait mal. C'est vrai qu'il y a eu une industrialisation de l'agriculture et que l'agriculture a été absorbée dans les effets les plus nocifs du fonctionnement du système capitaliste, dont on voit à quel point il est dévoyé et perverti. Et nos sols et nos agriculteurs, et surtout les innombrables petits et moyens agriculteurs, ont été finalement les victimes de ce processus.
Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de faire tout de suite...
Ne culpabiliser ni les agriculteurs ni les consommateurs, parce que la plupart d'entre eux, et surtout les agriculteurs, mais les gens aussi, se débattent dans des problèmes financiers épouvantables. Les trois quarts des gens ne savent même pas cet hiver s'ils vont se chauffer ou s'ils vont payer leur loyer, et s'ils vont garder leur boulot ou en retrouver. Je veux dire, ils ne sont pas coupables. Ça, c'est vraiment la première chose. Je suis contente que vous disiez ça aussi, parce qu'il y en a assez. Culpabiliser les gens, c'est garder le pouvoir sur eux.
Oui, voilà. Tout à fait.
Non, parce qu'on sait qu'il y a aussi un peu une écologie du père Fouettard qui existe. Hein. C'est aussi une tendance, je ne dis pas qu'elle est lourde, mais en tout cas, elle est tout à fait réelle dans certaines parties de la société. Je vous propose d'aller retrouver justement Lydia et Claude Bourguignon, qui sont donc deux agronomes. À l'époque, alors je sais que les relations ne sont pas bonnes avec l'INRA, parce qu'ils ont claqué la porte de l'INRA il y a déjà pas mal de temps, mais quand même, ils font assez autorité aujourd'hui. Je tiens à préciser aussi qu'indirectement, grâce à eux, il y a de nouveau eu un laboratoire de microbiologie qui s'est créé, donc grâce, cette fois-ci, sous l'égide de l'INRA. Et eux sont des sculpteurs de sol. Donc on va les retrouver, donc toujours à travers ce film de Colin Serrault. Ils sont dans un champ et ils regardent les sols.
Ils viennent à peine de moissonner et ils sont déjà en train de retourner la terre. Donc la terre, là, va se trouver à l'extérieur et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'il fasse son semis.
Tu vois, là, ils ont lissé la terre. Le sol de la charrue l'a rendu brillant. Brillante, elle est complètement lissée. Donc l'air va plus pouvoir rentrer dedans. C'est une technique très violente pour la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Là, on a l'impression que c'est du béton armé, alors qu'elle a besoin d'être au contraire grumeleuse. La terre est en train de saigner. C'était une image des anciens. Quand il y avait trop d'érosion, ils disaient que la terre saignait. Là, on voit, là, il a tellement labouré profond qu'il a été chercher les sols rouges de profondeur.
Tu sens là, la terre, là ? Elle sent mauvais. Elle sent le lisier de porc.
Tu sens cette mauvaise odeur de pourriture que dégage cette terre, hein?
Tu vois, ça fait des mottes. Et puis alors, on appelle ça les structures géométriques. C'est un sol qui est compacté. Et le labour le fait, quoi. Tu vois, quand on le casse, comme... Tu vois, ça vient pas grumeleux. Tu vois, ça vient en mottes.
Ça devient minéral. Le sol est en train
ça
de
devient minéral.
La pierre. Je vais aller prendre du sol sous la forêt. Tu vas voir, ça pourrait être différent. On va voir la structure d'un sol quand il est vivant. C'est que des boulettes, c'est que du couscous, comme on dit. Mais là, il y a énormément de racines, hein, je suis en forêt. Hein. Le sol se tient pas tellement il est structuré par la vie, c'est du vrai couscous. Parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous, elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur... Quand on sent là, ça a une odeur de champignons extraordinaire, alors que le sol là-bas, il sent plus rien parce qu'il a été brûlé par le soleil, il a plus d'odeur. C'est de comprendre que la terre, il faut la respecter parce que toute seule, elle fait des très belles structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits parce que la terre, elle demande qu'à faire pousser les plantes. Hein. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande, de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux. Les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais.
Voilà, donc pas de langue de bois, mais de la langue de terre aujourd'hui dans cette émission. Et on voit bien, Colin Serrault, donc, que l'agronomie moderne a quand même cherché de façon assez obsessionnelle à expulser les fonctions naturelles et gratuites des écosystèmes pour y substituer la pétrochimie. Ce que vous disiez d'ailleurs au départ, mais on a fait ça. Enfin, sur ça, c'était...
On a fait ça. Et puis pour substituer la pétrochimie et pour se faire plein d'argent, quoi. Et donc on a aussi empoisonné les gens parce que en fait, sous prétexte soi-disant de nourrir la population. Attends, la population avant la colonisation dans le monde entier se nourrissait plutôt bien.
Je veux dire, les familles, même en Afrique.
Mais bien sûr, l'Afrique était autosuffisante. Et puis Rabidou toujours, l'Éthiopie bien gérée. peut nourrir toute l'Afrique. Oui. Parce que ça ne demande pas tellement de terre, ça demande une agriculture familiale, des petites surfaces, des petites exploitations avec une très grande variété de plantes, et ça marche très bien, c'est très productif, l'agriculture bio. Mais là, évidemment, évidemment, ça a boosté un peu la production, ce que je disais tout à l'heure, mais maintenant, bientôt, il n'y a plus de pétrole, on le sait, quoi. Oui. Ils le savent, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour changer? Et puis déjà, il n'y a plus de sol, parce que maintenant, on est dans un désert virtuel. La Beauce, la Brie, tout ça, vous enlevez le pétrole, c'est du plastique, le sol. Il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus rien faire pousser sans le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit verre d'eau. J'espère qu'elle est sans trop de nitrate, ça devrait aller. Et on se retrouve dans quelques instants. Donc, après pique-nique party, bah oui, bien sûr, dans les champs, allons-y, Bert Pollard.
Junes to go. Fill the basket to the brim. Wait until the lights are dim. Set the stage and let the music flow. We're having a picnic party.
hot dog, shakti shakti, mana mana, sugar sugar, honey honey, lovey dovey, psychoelectric, popsadelic, big man. The da-da and surrealist, sipping wine, tapping time, rubbing shoulders with the funky tribe. Mamas, papas, llamas too, freaks and geeks and kooks and crooks. Cherry in the bowl. Oh, we're having a party, a picnic party. We're having a picnic party. Yeah, we're having a party. Ba-da-ba-da-ba-ba.
Muriel Pérez sur France Inter a choisi donc ce disque. On la remercie beaucoup, notre programmatrice. Nous sommes, vous l'avez compris, en direct avec Colline Serrault, avec ce film qui sort mercredi. En général, c'est le mercredi, oui, c'est ça. Solution locale donc, pour un désordre global. Déjà beaucoup de succès, hein, parce que Colline donc, tourne ce film, comme on dit, un petit peu partout aujourd'hui en France. Ça a été quand même un an de tournage, mais quasiment toute seule avec votre caméra, non, c'est
oui,
ça
oui, toute seule avec ma caméra. Un an de tournage un peu dans tous ces pays-là, l'Inde, le Brésil, l'Ukraine. C'est bien la liberté aussi, c'est bien d'être toute seule. Ça correspondait au projet. Hein,
oui, tout façon, à fait. Voilà. Et on sent des images aussi extrêmement libres, quoi. Pas un montage.
Oui, le montage, là, c'était par contre, c'est beaucoup de boulot. Ça. 2 ans de boulot pour le montage. Oui. 170 heures de rush, donc fallait couper l'arbre un petit peu. Enfin, voilà.
Alors, comme c'est votre première rencontre quasiment virtuelle, mais enfin quand même, avec Jean-Marie Pelt.
Oui, virtuelle, voilà. Hein, malheureusement.
Peut-être aussi, je ne sais pas, des interrogations, du questionnement par rapport à Jean-Marie
Bah, moi, plein, mais il y avait une tellement belle chose qui m'avait tellement frappée, c'est cette histoire des girafes qui mangent des fruits d'un arbre et que l'arbre se défend en informant les autres arbres et après la girafe peut plus les manger. J'ai trouvé ça tellement beau.
Enfin, c'est l'histoire de l'antilope et de l'acacia, ça peut être.
Jean-Marie, en tout cas, le dialogue entre les arbres qui se défendent tranquillement, ouais, pour pas qu'il y ait trop de prédation, ce qui est bon d'ailleurs pour la girafe.
Oui,
parce que s'il y a plus de fruits,
s'il y avait trop de prédation, il y aurait plus d'herbe. Il y aurait plus d'herbe, donc il y aurait plus d'herbivores. Et voilà. Comme il n'y aurait plus d'herbivores, il n'y aurait plus de carnivores, donc il n'y aurait plus de nature du tout. Alors la nature, elle est régulée. C'est ça l'idée centrale. La nature, c'est quelque chose qui marche. Quand on ne la détraque pas, ça marche très bien. Et ça devrait être un modèle pour l'économie, dont vous avez dit des choses terribles, mais tout à fait vraies concernant la formatation des agriculteurs par les grandes multinationales agrochimiques alimentaires. Là, il n'y a pas de régulation. Là, il faut tirer au plus vite des finances et des dollars. Et comme ça ne régule pas, alors ça aboutit à la crise dans laquelle nous sommes. Et moi, je voudrais vous dire, Colline Serrault, que j'apprécie particulièrement le fait que vous n'annoncez pas dans votre film l'apocalypse pour tout de suite. Et que vous avez dit en ouvrant cette émission que vous souhaitez que nous traitions la maladie dont nous sommes malheureusement la cause et que nous ne désespérions pas les gens. Moi, je suis très inquiet parce que pour Copenhague, on a tellement fait monter la pression médiatique que les gens ont fini par croire que si ça ratait, c'était la fin du monde après-demain matin. C'était pas le cas, mais il y a une conséquence très fâcheuse. C'est que l'excès de médiatisation a provoqué un contre-courant, une sorte de contre-vague, et aujourd'hui, l'écologie est fragilisée. Donc votre film va nous permettre de la renforcer de nouveau.
Oui, puis moi, dans le Tour de France et que je fais, je rencontre des centaines, des milliers de gens qui font plein de choses. Cette société qui change, qui est en train de muter, elle ne se voit pas parce que les médias n'en parlent pas, parce que ce n'est pas ça qui est dominant dans les médias. Mais je peux vous dire que, en tout cas, le désir de changer, il est dominant, il est majoritaire. Alors les actions et les associations, elles sont encore minoritaires. Mais il y a une vague de fond qui avance, il y a énormément... Et puis, on est des humains, quoi. Quand on a des enfants, c'est-à-dire cette société, c'est comme notre enfant, elle est malade, on va la soigner. Elle est dans une grande maladie infantile, qui a commencé d'ailleurs avec le patriarcat, à mon avis. Mais bon, c'est vraiment une vilaine maladie infantile. Et ben, on ne va pas la laisser tomber, on va soigner, on est fait pour ça. On est des bons parents, quand même, on va s'en occuper de tout ça. Et c'est déjà en marche. Elle est en train de tomber d'un côté, mais elle est déjà née de l'autre côté. Et c'est pas parce que la dent de lait ne se voit pas qu'elle n'est pas là. Que la dent qui est en dessous de la dent de lait, elle va tomber la dent de lait, puis derrière, il y en aura une plus belle. Donc, ça va aller, quoi. Ne désespérons pas. Ceux qui veulent vous désespérer, c'est ceux qui veulent garder le pouvoir sur vous.
Oui. C'est une belle image, celle de la dent de lait. C'est une dent de lait qui est un peu dure, donc il faut pousser pour qu'elle tombe.
Mais ça saigne un peu quand on l'enlève. Hein.
Oui, mais je suis frappé, comme vous, de l'extrême fermentation de notre société et du changement profond de culture qui est en cours. Et ça, rien ne pourra maintenant arrêter ce mouvement qui est très puissant. Et moi, je suis plein d'espérance, malgré tout ce qui, dans le court terme, pourrait nous inquiéter, parce que je pense que nous sommes tout à fait capables, ayant pris conscience des problèmes d'une manière claire maintenant, en effet, de leur apporter des solutions. Et ces solutions... elles viennent de l'action, comme vous le dites, locale,
oui,
pour ce fameux désordre global. L'action locale, elle est en cours et elle se développe avec beaucoup de puissance dans d'innombrables initiatives qui s'additionnent et vont dans le même sens.
Alors, il y a un homme que vous connaissez, bien sûr, l'un et l'autre, puisqu'on retrouve Pierre Rabhi aussi à travers ce film. Donc, Pierre Rabhi, c'est un des promoteurs de ce qu'on appelle l'agroécologie. Je l'avais rencontré, c'était en compagnie de Jean-Claude Carrière, c'était au mois d'octobre 2008. Nous étions dans ce très bon festival de Moinsartou. Définition de Pierre Rabhi de l'agroécologie.
L'agroécologie, c'est en quelque sorte, pendant longtemps, on a, disons, la modernité a fondé la production agricole sur les théorie, en particulier de Liebig, c'est-à-dire le principe NPK. C'est-à-dire on prend des substances chimiques... Nitrate, phosphate
et potassium.
Vous ajoutez ça, du calcium. Et on a pensé qu'avec ça, on allait pouvoir finalement nourrir l'humanité, puisque effectivement, ces substances provoquaient quelque chose de miraculeux en termes de production. Et ensuite, petit à petit, il y a eu une dérive, c'est-à-dire qu'on est allé de plus en plus vers la chimie, et on a mis du temps à s'apercevoir que finalement, la Terre est un être vivant, et qu'on ne peut pas le traiter comme un substrat dans lequel on met simplement des substances de synthèse pour qu'il produise. Et je pense qu'il faudra un jour déclarer l'agriculture moderne sans procès des personnes comme l'une des grandes catastrophes écologiques de l'histoire de l'humanité.
Et donc comprendre le monde pour vous, c'est avant tout comprendre la Terre et comprendre le sol qui nous porte.
Évidemment, il y a une telle ignorance, c'est-à-dire que nous consommons tous de la nourriture. Et ce qui est affligeant, c'est que la Terre, et ce n'est pas une métaphore que de l'appeler mère, c'est une réalité. Terre-mère est la plus ignorée.
La terre-mère aussi, quand on parle de ça au départ, lorsque l'humus va se former, au départ ça vient effectivement de la roche, des minéraux.
Bien sûr, ce qu'on appelle la terre-mère en tant que nourricière de l'humanité, et elle est née elle-même de la combinaison entre le minéral et l'organique. Et ce minéral et l'organique se complexifient et donnent ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qui donne les 20 ou 25 cm de terre auquel nous devons la vie. Oui. Et à l'intérieur, nous devons tous la vie. À ces 25 cm de terre. Seulement, l'approche, si vous voulez, de l'agroécologie, elle doit prendre en compte le facteur humain. Le paysan, partout dans le monde, a été humilié. Il a été considéré comme la dernière catégorie sociale. Sauf que si les paysans faisaient grève, on comprendrait leur... J'aimerais bien une année, simplement une année, grève des paysans. Bon, on fait notre jardin et puis les autres se débrouillent. Eh bien, on verra l'importance du paysan. Donc, notre approche, elle n'est pas simplement technique. C'est pour ça que nous sommes intitulés terre-humanisme. C'est parce que si vous n'arrivez pas, disons, à travailler dans le cœur et la conscience de l'individu qui est concerné, à lui redonner sa dignité, à lui faire comprendre par lui-même et non pas une compréhension d'importation, le problème dans lequel il vit, vous ne pouvez pas engager les choses simplement sur la technique.
C'est bien pour ça que vous faites la différence entre l'humanitaire et l'humanisme aussi.
Absolument, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons organisé le monde sans humanisme que nous avons besoin d'humanitaire. Oui. Ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle pompier pyromane. À la fois, on détruit tout et puis on est tellement généreux avec nos sacs de riz hein, pour dire « regardez comme nous sommes généreux ». Seulement, on ne compte pas ce qu'on a pris réellement avant de donner. Donc, cette situation-là, évidemment, est une hypocrisie internationale validée par les institutions internationales et par tout le monde et qui est une honte. Il va y avoir, comme vous le savez, une crise alimentaire mondiale sans précédent. Et l'Occident ne sera pas épargné.
Pierre Rabhi, donc à la fois homme de terrain, homme de double culture, donc c'était en 1900, oh non, c'était en 2008 après tout, oui, non, c'est pas en 1900, c'était absolument en 2008, donc Pierre Rabhi, vous vous rappelez aussi très bien dans ce film, Colin Serrault, donc l'importance de ce système agro-silvo-pastoral que connaît aussi très bien Jean-Marie Pelt. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les animaux d'un côté, on a mis la paille et les céréales de l'autre, et puis on a mis les arbres un peu comme, non pas comme des champs d'allumettes, comme des boîtes d'allumettes, mais voilà, alors que c'est vraiment tout ce lien qui est important, Jean-Marie Pelt, pour que ça fonctionne.
Oui, ce qui est peut-être gênant, c'est que disons, le monde de l'écologie est souvent un monde très urbain. Et que, par exemple, le sol est le grand oublié de l'écologie. Parce qu'on parle énormément, évidemment, de la pollution de l'air, beaucoup aussi, à juste titre, de la pollution de l'eau, beaucoup des transports, beaucoup de l'écologie urbaine, Dieu sait qu'on a travaillé dans ce sens-là, mais le sol, c'est le grand oublié de l'écologie. Et ce que vient de dire Pierre Rabhi, comme tout ce qu'il dit d'ailleurs, est à la fois pertinent et émouvant, parce qu'il faut malheureusement constater que nos sols s'épuisent, qu'on est obligé de mettre toujours plus d'intrants chimiques, engrais ou pesticides pour avoir des rendements qui restent élevés mais qui ont tendance maintenant à plafonner. Donc nous voyons apparaître un effet de seuil, comme c'est souvent le cas lorsqu'on a poussé très 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 loin le bouchon. Et donc on est maintenant dans la nécessité urgente et impérative d'aller vers, en effet, une agriculture durable. Je voudrais évoquer un rapport de FAO, qui est l'Organisme pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Ce rapport remonte à mai 2007, il a fait grand bruit. Alors on disait, n'est-ce pas, on pourra nourrir les 9 milliards d'habitants de 2050 à condition de les nourrir avec une agriculture durable et biologique, mais il faudra utiliser de bonnes techniques agricoles. Et ce que disait tout à l'heure Bourguignon était très, très intéressant. En faisant un labour beaucoup plus léger, dans ce qu'on appelle, par exemple, les semis sans labour, on modifie beaucoup moins la texture du sol, on ne le rend pas luisant comme ça, comme le socle de la charrue. Ben, voilà des pratiques nouvelles qui sont en train de se mettre en œuvre.
Donc c'est retour à l'agronomie, non pas évidemment à la chimie,
non.
Cela.
Puis il y a plein de choses qui s'inventent. Il y a le semis direct sous couvert, il y a le BRF. Le BRF qui est une technique extraordinaire aussi pour remettre debout un sol.
Le bois raméal fragmenté, hein, le BRF, on avait reçu Jackie Dupetit dans cette émission dans le département du Lot qui donc le pratique, c'est-à-dire que l'on va faire, on va couper des jeunes pousses d'arbres qui vont après servir d'engrais naturels et de couvert. Évidemment, tout ceci fait appel de nouveau à de l'agronomie. Lorsque vous parlez, vous avez une jolie formule, quand vous parlez de la blessure narcissique du 21e siècle, qu'est-ce que vous voulez dire, Colin Serrault?
C'est-à-dire que il y a eu un moment, par exemple, à l'époque de Giordano Bruno et Galilée, il a fallu se rendre à l'évidence qu'on n'était ni plat, d'abord qu'on était rond, qu'on n'était pas le centre, qu'il y avait un soleil autour duquel nous tournions, et que le soleil, autre blessure narcissique à avaler aussi, c'est que le soleil non plus, c'était pas le centre. Et puis encore une autre blessure narcissique, c'est que la galaxie qui abritait notre soleil n'était pas non plus le centre. Il y avait des milliards de galaxies comme ça. C'est-à-dire qu'on n'était rien et tout, on était super bien, mais comme les autres, quoi, pas plus, pas moins. Et alors maintenant, je pense que la grande blessure narcissique du 21e siècle, ça va être de savoir que on est plutôt un peu moins bien adapté que les autres espèces vivantes. C'est-à-dire qu'on est plutôt un peu inférieur. Il va falloir qu'on soit très modeste vis-à-vis des plantes, des animaux, et que notre fameuse conscience, c'est peut-être pas terrible, que peut-être il va falloir qu'on s'occupe d'aller au niveau de ce qui nous a précédé au lieu de se penser toujours supérieur.
Alors ça, c'est un sujet qui vous est extrêmement cher, Jean-Marie.
Oui, profondément cher. En entendant ces paroles, je me dis toujours que les grands sages ou les grands saints ou les grands savants de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'humanité lointaine, il y a 2000, 3000 ans, n'est-ce pas, ont tous beaucoup insisté sur le fait que l'homme devait être sobre dans sa consommation, qu'il devait être modeste dans son attitude, qu'il devait avoir une certaine humilité. Humilité, c'est la même racine que humide ou que humus.
Et que humanité.
Et que humain, aussi. Voilà. Et ça, ça a été dit par toutes les grandes spiritualités du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un matérialisme de fer. Nous considérons que tous ces gens étaient peut-être intéressants et qu'on les étudie, en effet, dans l'histoire de la philosophie. Mais enfin, ce n'est pas eux qui ont fait le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il est fabriqué par une science qui, hélas, hélas, est au service des grandes puissances d'argent, produit des technologies qui rapportent beaucoup d'argent. C'est aussi comme ça que ça marche. Et nous sommes très fiers de ce mode de fonctionnement qui est en train de nous tuer, mais qui, en tout cas, sûrement, est en train de tuer l'humanisme en faisant une société glacée et immensément profuse et confuse en tout domaine.
Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de partir justement en Inde avec Colin Serrault, parce que là, on va renverser cette affaire et on va voir qu'il y a déjà des gens qui font quand même un certain nombre de choses. C'est pas la majorité de l'espèce, comme on dit, mais peu importe. Ça fait partie de plus que de ces signaux faibles qui existent. Tout à l'heure, on pourra aussi rappeler que la famine n'est pas une fatalité, que ça aussi, ça a été construit comme affaire. Et donc, Colin Serrault, là, se trouve dans l'état du Karnataka avec un agriculteur qui a d'abord été productiviste et on va se retrouver chez lui et voir comment il travaille sa terre, son humus, avec, entre autres, avec l'aide de ses arbres.
Tout le village pense que je suis fou de ne pas vendre cet arbre pour 10 000 roupies. Mais pour moi, cet arbre est un dieu, parce que 5 fois par an, il fait des fruits qui deviennent un engrais très riche. Sans rien dépenser, on a 10 tonnes d'engrais par an et l'arbre est toujours là. Mais eux, ils font seulement de l'agriculture. Alors que nous, on a la forêt plus l'agriculture. On appelle ça l'agroforesterie. Un bon sol, riche en humus, qui sent si bon. Et c'est comme ça qu'un sol devrait être. Il y a tellement de fruits. Regardez ce poivre, tellement de poivre. C'est la meilleure race du monde pour le lait. Un lait très bon pour la santé. Et dans 10 jours, elle va nous donner un veau. Les animaux, ils transforment facilement notre biomasse en engrais. Dès que les fermiers deviennent autonomes en semences et en engrais, l'agriculture devient vraiment facile. La semence, c'est le nerf de la guerre. Ils contrôlent toute la population avec cette combine de fournir les semences. C'est une guerre froide. Je pense que c'est une guerre froide contre la population, ce business des semences. J'ai bon espoir que d'ici 5 ou 6 ans, au moins 50% de nos petits fermiers et éleveurs vont se reconvertir à ce système.
Ce qui est très intéressant, Colin Serrault, c'est qu'au cours de votre voyage, vous avez passé plusieurs fuseaux horaires, c'est que vous avez rencontré des gens qui ne se connaissent pas, qui rencontrent les mêmes problèmes et qui sont en train de découvrir ou de redécouvrir aussi les mêmes solutions.
Oui, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée et qui frappe les gens qui voient le film, c'est cette convergence des solutions. Parce qu'en fait, on est une seule et même espèce qui se nourrit de la même façon, qui a à peu près les mêmes gènes. Donc, pourquoi est-ce que ça serait différent? C'est très varié. C'est la biodiversité. On est tous dans des climats, des sols, des pluviométries et tout ça très différentes. Et ces différences sont magnifiques. Mais le fondement de comment on s'est nourri et comment on est arrivé à survivre depuis que cette pauvre espèce est apparue, enfin, belle espèce aussi, c'est le même. On se nourrit de la terre. La terre qui va chercher dans les minéraux et qui utilise aussi ce qui tombe des arbres et qui fait cet humus. Et cette terre, elle nous nourrit, quoi. Et il faut l'aimer, la respecter et savoir qu'on ne peut pas juste piquer ses fruits et la tuer. Il faut la nourrir pour qu'elle nous nourrisse. C'est la dialectique comme la girafe. C'est-à-dire qu'on peut prendre un peu et puis laisser quand même et laisser une terre qui sera meilleure pour nos petits-enfants au lieu d'un espèce de désert qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Alors, dans ce genre de cas, évidemment, il faut avoir aussi un esprit de résistance. Et c'est l'esprit aussi qui anime Dominique Guillet, qui est le fondateur de l'association donc, Cocopelli, un homme qui a évidemment travaillé beaucoup sur les semences. On a parlé donc du rôle du sol, on l'a bien compris. Donc, si on considère que le sol n'est que le support des plantes, alors qu'en fait 90% du monde vivant se trouve à l'intérieur du sol, c'est sûr qu'on doit faire appel à la chimie. Donc là, c'est une manière de contrôler cette affaire-là. Et puis l'autre manière, c'est aussi de contrôler la semence. Mise en perspective de Dominique Guillet.
Jusqu'en 1961, les multinationales d'agrochimie avaient commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire. Mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence. Et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté un millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien, à partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacées par des hybrides F1 qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. Et en France, non seulement il est interdit de commercialiser des anciennes variétés non inscrites sur la liste nationale, mais il est interdit d'échanger et de donner des semences. Cocopelli, depuis 1999, distribue des quantités de semences absolument inouïes à des centaines et des centaines d'associations ou de communautés rurales sur tous les continents de la planète. Et les semences sont envoyées à titre gracieux. C'est pour ça qu'on nous harcèle depuis quelques années au tribunal. Nous étions attaqués par le GNIS, donc le ministère de l'Agriculture, et par le lobby des semenciers, la FNPSP, qui est la Fédération des semenciers industriels. Malgré cela, eh bien, Cocopelli, dans ses clients, a la mairie de Bordeaux, la mairie de Poitiers, la mairie de Paris, le muséum d'histoire naturelle, le parc du Luberon sont nos clients depuis 8 ou 10 ans. Ils nous achètent tout un tas de semences. L'an passé, on a eu une commande du Conseil général de la Guadeloupe, je crois, de 5 000 €, par exemple, de tomates illégales et de semences illégales. Donc, c'est un canular. Les plus grands restaurants de Paris, dans lesquels mange toute la bourgeoisie, de droite, de gauche ou de centre, ne mangent que des tomates anciennes fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en semences chez Cocopelli. Les gens qui ont goûté nos anciennes variétés de tomates, tu crois qu'ils vont retourner vers les hybrides de l'agrochimie ? Non, parce que nos tomates sont des vraies tomates avec du goût.
Et nous aussi, hein, tant que citoyens, tant que consommateurs, on peut résister à cela. Hein,
oui, la nature, elle est extraordinaire. Pour un grain, vous avez 100, 10, 20, 1000 grains. Oui. Et là, pour un grain, vous n'avez plus rien. Il faut le racheter. Un seul grain, vous devez le racheter.
C'est génial. C'est un vol, cette affaire. Formidable. Écoutez, comme on adore les murs, même si ce n'est pas la saison, on va aller du côté du bord de l'Isère avec Fugain.
On cueillait des murs sur les ronciers au bord de l'Isère. On cueillait des murs et des baisers, encore un peu verts. On regardait les filles riaient, souriaient sous leurs jupes jonquilles. Les fruits de l'été s'éveillaient, on cueillait des murs sur les l'amour piquait. La belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. On rêvait de vivre sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait. Des murs sur les ronciers après le ciné.
ces vieux films en noir et blanc, mais fait comme on les aimait. On parlait pour les filles écoutaient à côté. Il fallait que l'on brille pour les approcher de plus près. L'on refaisait le monde qu'on voulait, le sourire aux lèvres pour mieux cacher qu'un jour tout allait changer. C'était l'âge où l'on attendait l'avenir qui venait. On cueillait les mûres sur les ronciers au bord de l'Isère. Et si les ronces ou la vie piquaient, la belle affaire. Il n'y a plus de murs ni de ronciers au bord de l'Isère.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique. On a tout lu sur la diététique.
Olivier, ne te vante pas, vous avez lu quelques livres sur la diététique.
Non, maman, j'ai tout lu sur la diététique, tout.
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, et bah vous avez reconnu, hein, Colline.
Oui, la crise.
Ça, c'était extrait de la crise. Dans Trois hommes et un couffin, on n'a pas trouvé. Mais c'est comme ça.
Ah, si, si, quand elle dit qu'elle donne du Fénergan.
Ah, c'est vrai.
Madame Rapon.
Voilà.
L'autre lui dit pas du tout, rien donné.
Bon,
et
bon,
une petite diète et c'est bon.
Ça marche. On va se faire un petit jingle pour les semaines à venir avec Xavier Pestudia. Nous avons en ligne avec beaucoup de plaisir Jean Viard, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est donc aussi attaché au CEVIPOF et puis qui est un observateur depuis de nombreuses années de ce monde paysan, qui a écrit « Lettre aux paysans pour un monde durable ». Et donc, on voulait un peu avoir votre sentiment. Jean Viard, bonjour à vous.
Bonjour.
Donc, vous avez compris que nous étions avec Colline Serrault. Vous suivez donc cette émission, bien
sûr.
Et donc, il y a eu un article très intéressant là, récemment dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Et j'avais aussi un petit peu envie de rebondir dessus parce que, en fait, ce modèle agricole, et si on parle à des jeunes aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce qu'on peut leur dire « Allez-y les petits gars », qu'est-ce que... On a bien parlé de changement de civilisation, de période de mutation. Quel est votre sentiment, vous, en tant que sociologue ?
Il y a deux niveaux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une crise que tout le monde voit. On peut prendre que l'exemple du lait. C'est-à-dire qu'il y a une crise de l'économie productive, notamment parce qu'on a voulu la gérer de manière ultralibérale à Bruxelles. Donc, disons, il y a une crise grave, au fond, qui est le fin de cycle de l'agriculture qu'on a mis en place dans les années 60. Bon, ça va prendre un certain temps. Et une des premières choses à ce niveau-là, c'est d'aider les agriculteurs à avoir un niveau de vie un peu plus correct. Ça, c'est un niveau. Le deuxième niveau, c'est que ces gens-là ont l'impression d'être mal aimés par la société et au fond ont l'impression d'être enfin de leur métier. Vous savez que le groupe social qui désire le moins que ses enfants soient agriculteurs en France, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc ça dit bien la profondeur de la crise vécue par la population agricole. Et donc la question, c'est comment on fait passer petit à petit l'idée qu'au fond, de l'agriculture d'hier, c'est-à-dire productive, avec des grandes exploitations, etc., et qui ne produit en gros que de l'alimentaire, comment on va passer à une agriculture qui va produire plus de choses, parce qu'elle va produire de l'énergie, elle va produire de l'aliment, elle va récupérer la forêt, elle va se poser des questions de capteurs de CO2, et puis elle va reproduire des matières premières, comme le lin, par exemple. Souvent, les chemises en lin, aujourd'hui, on oublie toujours que c'est un substitut au fond maïs, en termes de plantation. Et donc, au fond, comment on va faire ça ? Et c'est-à-dire, comment on va faire une agriculture écologiquement intensive pour 9 milliards de gens, en sachant qu'il y aura moins d'énergie fossile. Donc, c'est un immense enjeu. Et on peut dire une chose, c'est qu'au fond, le monde agricole, il a vécu depuis 30 ans l'arrivée des pensées écologiques un peu comme de l'extérieur, des gens qui venaient leur expliquer ce qu'il fallait faire. Or, ils passent leur vie à faire planter, faire pousser, ils ont l'impression qu'on les a un peu agressés. La grande question qui est difficile aujourd'hui, c'est comment on va articuler, au fond, cette nouvelle perception, notamment évidemment des équilibres écologiques, et nos savoirs productifs, en ne croyant pas qu'il n'y a que la périphérie. Je veux dire, nourrir 9 milliards d'hommes, c'est un gros travail. Et donc, comment on va faire? C'est tout le débat de la prochaine génération.
Mais donc, ça veut dire, Jean-Vierre, qu'il faudra un pacte pour une agriculture soutenable, qui inclut, on l'entend bien à travers vos propos, l'alimentation, l'énergie, les matières premières. Bon, mais est-ce qu'on a vraiment tout ça sur la table? Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui au cœur des réflexions? On ne l'entend pas vraiment, tout ça?
Non, on ne l'entend pas vraiment. J'allais dire... Alors, c'est compliqué, parce que moi qui suis très proche du monde agricole par certains côtés, vous voyez, par exemple, j'ai été expliquer ça au congrès des chambres d'agriculture, ils m'avaient invité pour en parler, j'ai même expliqué ça aux producteurs d'OGM dans leur congrès. Donc, je veux dire, le débat existe à l'intérieur de la profession, il existe un peu à côté des politiques, puisque je suis dans le conseil de prospective que le ministre écoute de temps en temps. Donc là, il y a discussion là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de portage politique, ni dans le monde agricole vraiment. Il y a des gens qui le disent, attendez, mais qui sont souvent un peu marginaux, j'allais dire. En gros, pour le dire autrement, ils ne sont pas au cœur de la FNSEA. Et en termes politiques, l'Europe, la PAC, les différents partis politiques, on ne peut pas dire qu'ils aient complètement réfléchi là-dessus. Et quant aux écolos eux-mêmes en tant que force politique, en gros, les questions agricoles, pour l'instant, ils ne s'en sont pas vraiment saisis. Ou alors, c'est avec un certain nombre de certitudes. Mais après, comment on fait pour que les métiers changent, pour que l'honneur des métiers change, tout ce qu'on met de l'argent pour que les gens qui ont investi, par exemple, dans des agricultures très productives, ça change. Il faudra bien les aider à passer à un autre modèle, etc. Alors, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de portage politique.
Et est-ce qu'il y a aussi, Jean-Vierre, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a aussi quand même cette urgence à sanctuariser les terres agricoles, 70 000 hectares à peu près, qui fichent le camp quand même?
Oui, mais ça, c'est peut-être l'urgence absolue, en tout cas dans des pays comme les nôtres, et d'investir en Afrique dans l'irrigation, etc. C'est-à-dire considérer que de toute façon, continuons nos discussions sur le type d'agriculture et son mode d'organisation, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on construit, on ne revient jamais en arrière. Et donc, si vous voulez, d'un côté, la ville étalée doit être densifiée pour des raisons évidemment d'empreinte écologique, de l'autre côté, il faut sanctuariser drastiquement les terres agricoles. Alors là, encore une fois, il y a des évolutions. Vous prenez l'Île-de-France, ils s'en sont rendus compte, donc ils consomment moins d'hectares. Mais en réalité, on continue à consommer des hectares. À un moment, il faudra décider que les terres agricoles sont sanctuarisées et qu'on se débrouille pour construire la ville de manière un peu plus dense, ou de la ville dans des endroits non productifs, il y a des terres non agricoles, alors que nous avons tendance à considérer les terres non productives comme étant des paysages magnifiques et à construire dans les terres de bon labour, ce qui est quand même un peu dommage. Ouais.
Merci à vous, Jean-Vierre, en tout cas pour cette analyse. Je me retourne vers Colline Serrault. Lorsqu'on en parle de pénurie alimentaire, tout à l'heure je disais que bon, on a 1 milliard à peu près d'individus, la loi des chiffres kilomètres, elle est terrifiante comme ça, on se dit 1 milliard d'individus qui crèvent de faim, il faut quand même dire les choses comme elles sont, ou qui sont affamés. Quand on parle de pénurie alimentaire, on pense souvent donc à ces pays-là. Alors, il ne s'agit pas de fiche la trouille aux gens, mais moi, j'ai découvert quand même dans votre film que l'on avait moins de 10 jours, on va dire, de nourriture disponible. Alors, racontez-nous, dans notre pays.
La pénurie alimentaire, 1 milliard d'affamés dans le monde, c'est quand même la preuve que la révolution verte ou la révolution industrielle de l'agriculture, elle a failli. Hein, parce que ce n'est quand même pas un très résultat extraordinaire. Avant la colonisation, l'humanité se nourrissait très bien. Il n'y avait pas d'affamés comme ça. Bon. Alors, la pénurie alimentaire en France, vous dites que on produit de l'alimentaire, enfin, on produit de l'alimentaire qui se vend sur les marchés. Ça n'a rien à voir avec produire de l'alimentation vivrière pour notre population. Emmanuel Bailly, qui est un type formidable qui a inventé le concept d'éco-régions, a fait une étude extrêmement sérieuse et poussée sur l'autonomie alimentaire des régions. Et on arrive à des chiffres absolument aberrants. Je ne les ai pas ici, là, sous les yeux, mais la carte, elle est sur le site de Colibri. C'est terrifiant. C'est-à-dire, enfin, terrifiant, on va le réparer, mais je veux dire que la France ne se nourrit pas. La France dépend d'un afflux de camions qui arrivent à Rungis et d'avions qui atterrissent à Roissy. Si demain, ça s'arrête, pour s'alimenter, eh ben, on a 4 jours d'autonomie en Île-de-France, hein, 12 millions d'habitants, et à peu près 15 jours sur la France. Mais les régions agricoles ne produisent pas d'alimentation vivrière pour les populations. Non.
Et on a très peu de maraîchers en Île-de-France.
Très peu de maraîchers. Hein. Alors, oui, enfin, le chiffre est hallucinant, quoi, par rapport à ce que... Mais en même temps, c'est réparable. Il y a des friches. qui sont d'ailleurs en train d'être achetés par les fonds de pension. Il va falloir aussi que la population fasse pression sur les maires pour qu'ils préemptent des terres, parce qu'on ne va pas se laisser comme ça plumer. Eux, par contre, ils ont très très bien compris, hein, les fonds de pension américains, la situation de très dangereuse dans laquelle les pays industriels se trouvent.
Jean-Marie Pell, justement, à ce sujet.
Et donc, eux, ils savent que ça va valoir des fortunes et ils rachètent. Mais nous, il va falloir qu'on arrête de se faire plumer nos terres, comme l'Afrique se fait en train de se faire plumer par les Chinois.
Alors ça aussi, c'est insu.
Oui. Parce que la culture vivrière en France, si on veut la remettre debout, il faut d'abord exiger que chaque ville, chaque quartier, chaque village, exiger des maires qu'il y ait des ceintures de sécurité et de salubrité alimentaire, c'est-à-dire de la production vivrière locale. Et ça ne demande pas des milliards de terres. Hein. Il suffit ça ne demande pas beaucoup de terres, hein, pour faire bien manger une population. C'est pour ça que c'est une fable de dire que, oh là là, parce qu'on est 9 milliards. Non, on peut très bien les nourrir avec un certain type d'agriculture. C'est vrai que ça va être compliqué à remettre en place. Je suis persuadé, moi, que les agriculteurs en conventionnel, d'abord, ils sont malades dans leur chair. Ensuite, ils sont malades dans la noblesse, comme il dit, de leur métier. Et je suis sûr que s'il y a des programmes et si on ne détourne pas l'argent là où il doit... Et le remettre là où il doit être, il y a une foule de gens, parce que la pression du public, la pression de la demande du marché est énorme. Donc il y a énormément d'agriculteurs qui reviendront, parce qu'eux aussi, ça sera leur intérêt. Et qui reviendront à une agriculture correcte. Ils demanderaient sûrement pas mieux. Mais il faut quand même que ça soit pas la misère pour eux. Et aussi, il faut remettre du monde, beaucoup de monde dans cette agriculture. Mais il y a peut-être des gens qui sont... C'est toute une organisation, une autre vision du travail. On peut aussi être agriculteur, électricien, faire les choses à mi-temps, donner un mois de sa vie à l'agriculture. On peut aussi, ou bien alors une semaine par an, on peut aussi imaginer qu'il y avait évidemment, comme il y a maintenant les AMAP, un pont entre directement le champ et l'assiette, c'est-à-dire une solidarité qui passe pas par les intermédiaires, qui se fait au-dessus de la sphère affairiste. Et puis on peut dire, peut-être que si, on peut inventer un service civil, parce que les rites de passage sont complètement absents, les gosses sont... Ils ont pas de rites de passage de socialisation. Hein, on pourrait très bien imaginer un service civil obligatoire, où ceux qui veulent peuvent apprendre l'agriculture, c'est-à-dire quoi? L'autonomie, c'est-à-dire la véritable démocratie, pouvoir être capable de s'alimenter soi-même.
Un homme comme Pierre Rabhi dit tout à fait justement que cultiver son jardin, c'est déjà le premier acte politique.
De résistance. Donc, parce résistance. Que quand vous êtes, quand vous savez faire ça, vous alimentez, vous dépendez plus de personne. Personne ne peut vous contrôler.
On va saluer donc l'association qui s'appelle Alimentons les régions, parce qu'ils font un boulot aussi tout à fait formidable pour promouvoir donc ces idées là que vous mettez aussi, enfin que l'on voit aussi sur dans ce film. Cette notion aussi est importante, hein, juste en quelques mots, Jean-Marie, parce qu'on est plutôt en fin d'émission, mais sur cette notion de terre que les multinationales rachètent aujourd'hui, ça c'est une tendance qui est extrêmement lourde.
Oui, il faut, comme ça vient d'être dit, relocaliser la production, évidemment. Alors il y a une tendance actuellement que je trouve vraiment effrayante, ce sont des pays riches et dont les sols ne sont pas nécessairement riches, comme par exemple l'Arabie ou les Émirats, ou des pays très peuplés comme la Chine, qui louent ou qui achètent dans des pays très pauvres, le Soudan,
Madagascar.
Les Philippines, Madagascar, l'Indonésie, des pays très peuplés et très pauvres, ils rachètent ou ils louent des terres, des surfaces très importantes à Madagascar, la Corée du Sud, a ainsi préempté, si l'on peut dire, la superficie de 3 départements français. Alors, on y fait une agriculture très intensive, dirigée par des agronomes du pays qui a préempté ainsi la terre, de sorte que Madagascar n'offre qu'une main-d'œuvre misérable de journaliers, en quelque sorte. Et puis, les richesses agricoles ainsi produites repartent dans le pays, en l'occurrence la Corée du Sud ou Madagascar. Alors ça pose une question toute simple. Que se passe-t-il s'il y a des accidents climatiques majeurs, s'il y a par exemple une forte sécheresse avec une forte disette? Est-ce que la production file à ce moment-là en Corée du Sud et laisse Madagascar sur sa faim, si l'on peut dire? Ceci a beaucoup choqué le patron de FAO, de l'Organisme des Nations Unies pour l'alimentation et la santé, qui voit une forme de néocolonialisme. Ceci a beaucoup choqué aussi M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui est intervenu plusieurs fois à ce sujet. Alors on voit en quelque sorte une sorte d'hydre, colonialo-capitalistique, voilà, qui s'introduit subrepticement dans, dans l'agriculture. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire.
Merci Jean-Marie. On laisse les gens affamés et les terres mortes.
Merci beaucoup Jean-Marie Pell. Les dons précieux de la nature, hein, tout savoir sur la biodiversité chez Fayard, c'est le dernier ouvrage, hein, la biodiversité, aussi bien les prairies, les forêts, les océans, la pollinisation. Donc ça, c'est le dernier livre de Jean-Marie. Et puis juste un tout petit mot, Colline, les espoirs que vous avez, donc, puisque ce film, il est là pour ça, solution locale pour un désordre global.
Bah, toutes ces initiatives qui ont l'air pour l'instant, qui sont très très nombreuses, qui ne sont pas encore reliées, elles vont se relier et là, ça sera un tsunami.
Merci beaucoup.